un terme générique qui couvre beaucoup de réalités. L'Union européenne, quand on nous écrit, m'écrit dire lobbyiste. Voilà, cher lobbyiste. Donc voilà. Il y a derrière, en fait, quand même beaucoup de choses qu'il ne faut pas mettre dans le même sac. Si vous exercez des pressions sur les parlementaires afin d'obtenir des dispositions favorables aux énergies fossiles ou à la manipulation d'OGM ou je ne sais pas quoi, génétique, etc., c'est autre chose que si vous portez un plaidoyer pour la justice sociale, la place de l'humain dans les sociétés européennes, la question des libertés, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un plaidoyer pour nous, c'est un plaidoyer pour une vision de la société au nom des fonds que nous trouvons dans la lecture de l'Évangile. Alors on a le même titre générique de lobbyiste, mais ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai aucun intérêt, enfin si, j'ai une satisfaction à essayer de préserver la liberté, le respect, la dignité, la justice sociale dans les pays européens, mais c'est au nom du lecteur d'Évangile et de mes convictions chrétiennes que je porte ce plaidoyer. Pas parce que mon entreprise se porterait un peu mieux, parce que telle directive européenne préserve, je ne sais pas, voilà, par exemple, vous avez eu récemment l'histoire du loup qui est passé d'espèce très menacée vers espèce simplement menacée. Donc là, il y a énormément d'actions lobbyistes, hein, mais là, il y a des intérêts entre ceux qui veulent les tuer parce qu'ils ont des brebis. Et puis, nous, on n'a pas cet intérêt, on a juste une vision de l'humain qu'on porte, mais on a ce même titre générique de lobbyiste. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, en français, on parlait plutôt de mener un plaidoyer, c'est-à-dire de porter une parole pour une vision qui nous anime, plutôt que d'être apparenté à des gens qui exercent des pressions. Voilà. Cette différence est quand même, même si le terme est quand même très, très subtil. Ensuite, s'agissant du Parlement, je ne vous suis pas tout à fait. Je trouve que la France a eu des gens dans la Commission européenne de tout premier rang. La preuve, c'est qu'on a un Premier ministre qui vient de la Commission européenne. Et alors, est-ce que les parlementaires européens et les parlementaires de l'Assemblée nationale, il y a une différence de niveau? Je n'en suis pas convaincu, en fait. Je trouve qu'on a des parlementaires européens, on peut prendre Raphaël Glucksmann, c'est quand même quelqu'un qui, alors, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, quand même quelqu'un qui a une hauteur de vue, d'ailleurs peut-être beaucoup plus que certains parlementaires français. Ouais, alors, mais par contre, c'est le niveau Parlement et le niveau Commission. Hein, et on a eu Thierry Breton, voilà, pour en citer un autre, à côté de Michel Barnier ou un Jacques Delors. On a même des gens qui ont écrit l'histoire européenne au plus haut point. Donc j'ai une petite réserve, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette question du niveau des parlementaires. Est-ce que vous connaissez tous les parlementaires français, on peut apprécier leur niveau? Vous avez vu, voilà. Vous avez vu ce que les gens qui négocient des joints, etc., est-ce qu'ils ont plus de niveau? Enfin, voilà, pour prendre un exemple, je ne suis pas sûr. Mais c'est le niveau, en fait, parlementaire, parce qu'il y a quand même 751 parlementaires, hein, c'est pas rien, c'est... On en a 530 en France ou 540 en Europe. Ouais, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le sens de la question. On a eu des grandes personnes qui ont porté des sujets en France. Hein. Je vous ai rencontré régulièrement. Ouais. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que souvent ils sont amenés à voter. Et l'intelligence qu'ils peuvent avoir d'un sujet est quand même une question. Hein. Et on sent plus des votes par culture de bloc que des votes par conviction, hein, quand bien même c'est un sujet éthique. Hein. Ça c'est... Ouais, là, parfois, j'ai interpellé, moi, notamment quand le rapport portugais est venu sur l'IVG, j'ai interpellé un tout petit peu. J'ai dit, comment pouvez-vous voter ça, etc. C'est pas évident d'avoir des réponses, hein, y compris des parlementaires, j'allais dire, qui seraient plutôt républicains, ou Renaissance en France, donc, voilà, peut-être légèrement conservateur, ils n'avaient pas réfléchi bien loin, on va dire ça comme ça. Ouais. On a quand même souvent des fonctionnements des groupes parlementaires où il y a 3-4 parlementaires qui connaissent le sujet et qui disent voilà comment notre famille politique comprend le sujet, et puis on vote en conséquence.
Une première question. Oui.
En particulier, ça m'interpelle beaucoup. Vous avez parlé, par exemple, de passage Moyen-Âge à l'essence, hein, je comprends bien. Les Hongrois, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Comment guérir les mémoires blessées pour les Hongrois? Si on parle de la Nouvelle-Calédonie, comme vous le disiez aussi, comment faire? D'actualité.
Je vais vous demander à leur réaction directe en tant que représentant des églises, des spécialistes, enfin, les fonctionnements qui ont été mis en place justement dans ce cadre-là, c'était un peu l'école, enfin, ils servaient de modèle ou de référence dans les autres instances européennes, enfin, y compris politiques, par exemple. Est-ce que la façon dont les différences se gèrent dans les cercles que vous avez évoqués, là, vous avez parlé de l'économie, mais ont quand même une valeur
quand vous mettez disque enfant dans une pièce autour d'une table ronde et vous posez des crayons de couleur et des feuilles et qu'ils se mettent à dessiner, arrivera forcément le moment où plusieurs enfants en même temps voudront la couleur jaune pour dessiner un soleil. Je veux dire par là que le conflit est normal, fait partie de la vie. Ce qui est anormal, c'est la guerre, de régler le conflit par la violence. Et donc le pape a raison, il a absolument raison. Ça c'est la première chose, hein. Et nous ne pouvons en tant que chrétiens être que des militants, j'allais dire, pacifiques, et des militants de la gestion et de la résolution des conflits par la médiation, par la parole. Voilà. Le conflit est normal, il fait partie de la vie. Il n'y a pas de méchanceté entre les enfants quand ils prennent le crayon jaune, c'est juste chacun est dans sa temporalité. Il n'y a pas de la haine entre ces enfants. Après, ils sont tués au ballon, vous voyez ce que je veux dire. Donc il ne faut pas voir le conflit comme quelque chose qui est une expression de la haine et de la méchanceté, etc. C'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui peut déraper dans de la haine et de la guerre, et qui n'a pas vocation à déraper dans de la haine et de la guerre. Il y a d'autres manières de vivre le conflit. Donc je trouve que le pape a raison. Ensuite, si vous voulez, en fait, notre monde s'est quand même copieusement fragilisé sur le plan international. Et nous entrons dans une phase de multiplication des conflits armés. Actuellement, on en dénombre 59 sur la planète. 59 conflits armés sur la planète. Et en fait, on ne peut pas, enfin, en tout cas moi, au niveau des églises, je me refuse de légitimer la guerre. Mais d'une certaine manière, je ne peux pas ignorer la guerre. Et c'est tout le drame, en fait, hein. Le drame de l'Europe qui aujourd'hui, à mon sens, je crois que le président de la République française a raison, en disant il faut pouvoir se coordonner au niveau européen, au niveau d'une défense européenne pour mieux exister dans un monde qui devient quand même très féroce, avec les appétits économiques. Vous savez, le retrait de Donald Trump du multilatéralisme, c'est-à-dire, en fait, les instances internationales, que ce soit l'ONU ou d'autres, ont été créés pour des gens de bonne volonté et un temps de paix. Ils n'ont pas été créés pour gérer des crises armées. Tout simplement, il y a un droit de veto, et quand la Russie a un droit de veto, donc l'ONU est bloquée. C'est évident. Et donc, par rapport à ces instances qui sont donc inopérantes par rapport au conflit actuel, par rapport aux appétits géopolitiques des grands de ce monde, hein, moi je m'attends à une invasion du Taïwan dans les 5 années à venir. Hein. C'est évident. Donc on est dans un monde où, de manière un peu réaliste, il faut peut-être admettre que la responsabilité des uns et des autres fait qu'il faut avoir des moyens de défense, quand bien même on ne le souhaiterait pas. Alors c'est un peu une réponse de Normand, je m'en excuse, mais malheureusement nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Mais je crois que le Saint-Père a besoin d'annoncer l'horizon du royaume de Dieu. Et nous devons le faire et chercher à le vivre. Et en même temps, je soutiens... Alors, c'est très compliqué au niveau européen, parce que le rapport, notamment à l'armement aussi, est extrêmement complexe. Hein. Même l'Allemagne a réinvesti 100 milliards dans son équipement. Hein. C'est assez extraordinaire. Hein. Et je vous donne un exemple. Je suis très proche, par cette histoire européenne, avec un parlementaire européen allemand qui venait des Verts allemands, donc un militant pour la paix, et qui était parlementaire européen, et qui a intégré, en 2021, qui a intégré sûrement le gouvernement allemand comme secrétaire d'État. Et un jour, il m'appelle, il me dit « Christian, j'ai un problème, c'est moi qui signe toutes les livraisons d'armes à l'Ukraine ». Il avait un problème de conscience. Entre ses convictions, c'est un protestant, il vient des frères moraves, il avait un problème de conscience en disant « j'ai toujours milité pour le pacifisme et maintenant je signe les livraisons d'armes pour l'Ukraine. C'est ce que je fais. » Enfin, voilà. C'est compliqué, hein, comme question. Hein, et vous avez, on est dans cette ambiguïté du réel. Hein. Je lui ai dit, mais tu as l'impression de faire ce qu'il faut faire dans le moment présent. Il dit, oui, mais bien sûr, on ne peut pas abandonner ce pays à la férocité. Donc voilà pour votre question. Je suis plutôt favorable à une défense européenne, aussi parce que, par principe de réalité, sachant qu'effectivement, actuellement, globalement, sur le plan international, le monde est très déstructuré et les 4 ans qui viennent avec l'élection de Trump ne vont pas simplifier les choses. Il faut que l'Europe puisse exister. C'est peut-être un des pays qui pèse qui pourrait avoir une action la plus désintéressée. C'est quand même un projet extraordinaire de réconciliation des peuples. Ça vous marque, ce projet européen. Je ne crois pas qu'on aura un jour un Europe First ou Make Europe Great Again ou un truc comme ça. J'espère pas. Alors, guérir les mémoires blessées. Il y a toujours une asymétrie terrible et irréductible entre les enfants des victimes et les enfants des bourreaux. Entre les petits-enfants des victimes et les petits-enfants des bourreaux. Parce que les descendants des victimes, dans leur tête, ils sont toujours victimes. Et les descendants des bourreaux, dans leur tête, ils ne se sont plus des bourreaux. Aujourd'hui, les Allemands, ce ne sont plus des nazis. Enfin, avant. Voilà. Et vous pouvez... C'est une asymétrie irréductible, c'est incroyable. Et ces descendants des victimes, parce qu'ils se sentent toujours victimes, ont besoin que les descendants des bourreaux continuent à reconnaître, continuent à être compris comme des victimes. Sans cette reconnaissance, c'est une souffrance terrible. Vous avez ça dans l'héritage colonial, vous avez ça dans les génocides, les Arméniens, pensez aux Arméniens, pensez aux, Alors, pensez aux Juifs, je ne veux pas parler de l'État d'Israël, c'est plus complexe si on met ça, mais pensez aux Juifs, voilà, et vous avez ça, donc en Hongrie, ailleurs, et vous aurez ça dans les guerres là qui sont en cours. Hein. Et en même temps, ça on ne s'en rend pas souvent compte, je crois que les descendants des bourreaux grandissent en humanité, quand ils savent reconnaître très humblement le fait que les descendants des victimes sont des victimes. Et d'une certaine manière, si vous entendez ça, c'est très humble et très chrétien peut-être, vous construisez votre propre humanité en vous mettant à la hauteur du besoin aussi de ceux qui se sentent encore victimes. Et vous progressez. Je lis souvent, par exemple, je fais un excursus un peu biblique, je lis souvent les récits de la Genèse comme des récits... qui illustre comment nous dépendons les uns des autres et comment le rapport à l'altérité est le lieu où j'apprends à être ce que j'ai vocation à être, un être humain. Ça se joue sur Caïn et Abel, ça se joue sur la relation d'obéissance à Dieu et le fruit interdit, ça se joue sur collectivement le déluge ou collectivement la tour de Babel. C'est toujours le rapport à l'altérité, l'ignorance de l'altérité, etc. Et en fait, là où on admet l'altérité de l'autre et on sait la prendre en considération, là on construit sa propre humanité, on devient qui on a vocation d'être. Et en fait, c'est ce chemin qu'il nous faudrait parcourir. Alors, on le parcourt quand il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Moi, j'étais très surpris quand je suis allé en Ukraine, au début en tout cas, il n'y avait absolument pas de haine du russe ni du peuple russe. Hein. Ça m'a surpris, alors qu'on était, enfin j'y suis allé deux fois même, j'ai pas vu de haine de russe jusque vers le mois de septembre-octobre 22, hein. Ça a mis six mois, aujourd'hui c'est terrible, hein, quand vous les entendez, et puis bon, bah, c'est vrai que dans toutes les familles on a des morts, enfin le prix humain, même s'il est un peu sous couvert, mais le prix humain est terrible de cette guerre, hein. On parlait de guerre un peu technologique, etc. Mais bon, donc on aura d'énormes blessures. Hein. Alors comment... vous voyez, la conférence des églises riveraines du Rhin, donc là c'est très protestant, c'est-à-dire le fait que des églises le long, à gauche, à droite du Rhin, se sont donné la main, ont créé une conférence, elle date de 1961. Les églises de Bade-Württemberg, du Baden, du Palatinat, les églises de Bâle, les églises de l'Argot en Suisse et de Bâle, etc. Et le Luxembourg se sont donné la main, ont créé une conférence des églises en 61. Trois ans avant le traité de l'amitié franco-allemande, traité de l'Élysée, qui date de janvier 63. Nous chrétiens, nous aurons un rôle à jouer. Et les chrétiens ukrainiens et les chrétiens... en Russie, que ce soit les luthériens, que ce soit les... Parce qu'il y a des luthériens en Ukraine et en Russie, je les ai rencontrés les deux. Il y a des baptistes dans les deux, il y a l'église grecque catholique qui est absolument admirable en Ukraine. C'est une église catholique orientale. Pour moi, c'est le projet d'église le plus fabuleux que j'ai rencontré en Ukraine. J'ai émerveillé par le travail auprès des étudiants, le travail social. Voilà. Ces églises auront un rôle à jouer pour reprendre le chemin de l'altérité, rencontrer le peuple russe qui a embarqué dans une histoire parce que peut-être au début il n'a pas été vigilant et aujourd'hui il est pieds et mains liés par un despote. Ensuite, est-ce que les modalités de l'Union européenne font école? Alors en fait, elles, au sein de l'Union européenne, elles sont dans toutes les instances, donc ce traité de fonctionnement de l'Union européenne, cet article 17, auprès du Conseil de l'Europe, c'est déjà plus compliqué, parce que ça c'est une autre entité avec d'autres missions, il n'a pas cette base-là. Je peux vous dire que globalement, en France, en tout cas, chaque fois que j'en parle, les gens découvrent, et aujourd'hui, on se rend compte, je crois que vraiment... aujourd'hui en France on a conscience qu'il faut trouver le mécanisme pour dialoguer avec les cultes. Vous voyez, quand on a travaillé sur la question de la fin de vie, alors pardon je quitte un peu l'Europe, mais je vais poser cette question, est-ce que ça fait école? un travail sur la question de la fin de vie. Le président, enfin la première ministre, a lancé une convention citoyenne. Nous avons été invités pour être auditionnés par ces 182 citoyens. On était assis sur des tabourets un peu de bar pendant une heure et demie à 7 à en répondre à des questions. Bon, c'était pas très sérieux en fait. Hein. Et quand on a rencontré. Alors c'était assez sérieux dans la rencontre avec le président de la République. On a eu deux fois un dîner avec lui et je pense qu'on a abouti à quelque chose qui était très fin, dont on pouvait à la limite, auquel pouvait à la limite adhérer, puisqu'il avait dit, écoutez, on va créer un possible là où la médecine n'a pas de réponse. Donc il n'était pas question d'un droit au suicide, pas question d'un droit à l'euthanasie, rien du tout. Il est seulement question si la médecine est incapable de résoudre une problématique de souffrance humaine, on va l'autoriser à donner un produit létal. Grosso modo, c'était ça. Ou à mettre à disposition un produit létal. Hein. Et en fait, quand on est arrivé dans la commission à l'Assemblée nationale, c'est parti en furie, comme un vertige. Nous étions 7 cultes, 1h30. Moi, j'avais 8 minutes de prise de parole et encore une fois 4 minutes pour répondre à 15 questions. Donc, vous voyez, à peu près pour un sujet aussi grave que la question de la fin de vie, voilà comment est traité, j'allais dire un culte, enfin que ce soit catholique, protestant, bouddhiste, peu importe d'ailleurs. Hein. Et puis j'ai tout de suite appelé le président du Sénat, j'ai dit, écoute, tu ne feras pas ça. Tu recevras chacun 1h30 pour qu'on puisse vraiment faire valoir un certain nombre de choses, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Et en plus, l'écologiste Sandrine Rousseau a fait son coming out en disant « Moi, j'ai donné le produit létal à sa mère. » Et puis, toute la presse a parlé de ça. Et puis, nous, on a été mis dans l'ombre. Donc, on est encore loin de faire école au niveau européen. Et on a une sacrée marge de progression dans notre pays. Mais on ressent le besoin, effectivement, de construire ça. Donc, nous avons la chance d'accéder au président de la République. Ça, je peux vous le certifier. Pour l'instant, individuellement, les cultes accèdent aux ministres quand ils veulent. Je pense qu'il faut que je poursuive ce travail d'avoir un rendez-vous régulier avec le ministre des cultes. Donc ça, il faut l'instituer régulièrement. Et peut-être une rencontre aussi avec une instance parlementaire et du Sénat serait la bienvenue, afin de recopier peut-être un peu ce modèle. Donc faire école, ce serait une très bonne idée. En tout cas, moi, je le porte en moi. Et puisque nous sommes un peu entre nous, je voudrais vraiment vous dire et tirer un coup de chapeau au président de la Conférence des évêques. Autant j'ai vécu un temps béni de collaboration œcuménique au niveau européen, autant je peux vous dire que c'est exactement la même chose en France entre les catholiques et les protestants. Je dis souvent, nous formons ensemble l'axe franco-allemand de l'Europe en France. C'est d'ailleurs la collaboration, c'est vraiment la locomotive. On est dans des problématiques qui ne sont pas simples, depuis le 7 octobre. Donc voilà. Et il y a des problématiques. Et il y a d'autres cultes qui ne sont pas moteurs. Le culte orthodoxe n'est pas moteur. Le culte bouddhiste n'est pas moteur. C'est vraiment l'axe catholique-protestant qui est très très fort. Et moi, je voudrais dire devant vous combien je suis reconnaissant à Mgr de Moulin-Beaufort pour cette collaboration qui est. Et fraternel et amical. C'est important de l'entendre, hein, parce que. Voilà, tout à fait. Voilà, donc faire école, oui, mais je ne lui ai pas encore parlé de l'idée de Retailleau, elle date de 2 décembre, donc ça. Mais on va prendre ça ensemble.
De la part des musulmans, de la part des juifs, y a-t-il des instances aussi comme ça?
Voilà, une première question. On peut en mettre une deuxième? Edwige?
Quelle est la. L'attitude par rapport à
Kirill. Musulmans et juifs, je dirais, musulmans et juifs, on est à l'image de ce qui se passe en France. Le judaïsme français, disons, le judaïsme européen est structuré par une conférence des rabbins européens, d'ailleurs qui est présidée par un certain Goldschmidt, qui était grand rabbin de Moscou, qui a exprimé ses idées vis-à-vis de Kirill et qui a vite pris sa valise et maintenant à Jérusalem, quand bien même il demeure encore grand rabbin de Moscou, mais il ne peut plus y aller. Et c'est Moshe Levin, qui est un des deux grands rabbins de France, qui est vice-président de cette conférence des rabbins d'Europe. Voilà, il y a un autre vice-président qui est le grand rabbin Guigui qui est à Bruxelles. Donc le judaïsme est organisé, alors contrairement, quand même, ça, il faut vous le dire, contrairement au christianisme qui est, vous avez compris, très bien structuré, la quête couvre voilà, les trois branches que j'ai présentées, orthodoxe, protestante et anglicane. Le catholicisme a ses deux instances, mais elles sont bien organisées. Les rabbins, en fait, c'est une organisation de clercs. Ça n'a pas la même représentativité que la comessé ou la kek, qui sont des représentations d'église. Donc ça, c'est une subtilité qu'il faut mesurer. Mais, en tout cas, on s'est invité, le judaïsme, on l'identifie assez bien. Et puis, il y a des ONG juives avec lesquelles la kek travaille, notamment sur la sécurisation des lieux de culte. On a fait tout un travail, puisque depuis 2018-2019, les lieux de culte sont des lieux très sensibles en matière de sécurité. S'agissant des musulmans, c'est beaucoup plus complexe. Vous avez la même foire que vous avez en France. Et vous avez pris pratiquement au niveau européen la même attitude que vous avez en France, c'est-à-dire on fait du pick and choose, on choisit un musulman pour en avoir un autour de la table, mais qui n'est pas quelqu'un qui a une pensée européenne, qui travaille les questions européennes. Un jour, on prend un musulman italien qui a une certaine notoriété, puis on prend un musulman d'Amsterdam, et puis l'année d'après, on en a un de Londres. Voilà, donc on en prend un comme ça, les musulmans ont été représentés, mais on n'a pas une parole avec quelqu'un qui a une forme d'autorité un peu plus représentative. J'ai essayé à un moment de créer une instance interreligieuse européenne en disant on va peut-être mettre deux ou trois musulmans et puis comme ça cette instance pourra avoir quelque chose de mieux établi. C'est assez compliqué, c'est vraiment très compliqué parce que on n'arrive pas du tout pour l'instant à créer quelque chose, mais c'est tout aussi mental que la conférence des responsables de culte en France où aujourd'hui, grosso modo, vous avez trois Algériens. Et pas de Marocains, et pas de Turcs. Pour l'islam, c'est problématique. C'est problématique. Parce que vous couvrez un petit spectre, qui plus est, d'un islam qui est tout aussi consulaire, c'est-à-dire qui a des intérêts géopolitiques vis-à-vis des ressortissants d'origine algérienne en France, autant que pourrait l'avoir une instance marocaine ou turque. Voilà pour l'interreligieux. Les bouddhistes ont une conférence organisée au niveau européen, il y a une instance avec un président élu, etc. Ça marche. Et puis, s'agissant de Kirill, alors, moi j'ai écrit deux fois à Kirill et je pense que je suis le seul qui n'a pas eu de réponse. Mais j'étais peut-être pas très diplomate dans ce que je lui ai écrit. Quand la Russie a envahi, la Confédération de Russie a envahi l'Ukraine, nous avions, donc c'était un 22 février, dès le 23 février, on avait un rendez-vous avec Kirill, à Genève. Il faut absolument qu'on le rencontre, il faut parler de la manière dont il soutient l'idéologie Ruskinir, donc l'idéologie du projet politique de Poutine, ou civilisationnel même de Poutine. Et donc il nous a dit « Ok, je vous rencontre le 2 ou 3 mars ». Donc on s'apprêtait à le rencontrer une semaine après l'invasion. Quand on s'est rendu compte que c'était pas un blitzkrieg et que ça prendrait du temps, Kirill nous a sentiment fait savoir qu'il faut reporter de 15 jours. Donc on a reporté de 15 jours et puis finalement il n'est jamais venu. Et donc du coup, moi j'ai décidé de faire une lettre publique à Kirill pour lui dire qu'il n'avait pas envie d'entendre en venant. On va dire les choses comme elles sont. Hein. Grosso modo, j'ai cité Galates 3, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni maître, ni esclave. C'est-à-dire, j'ai dit que nous avons une identité chrétienne par le baptême qui transcende nos identités nationales, etc. Et qui, d'une certaine manière, nous oblige à résister au soutien de toute idéologie. Et je lui demandais de prendre ses distances, on va dire ça comme ça, de prendre ses distances avec l'invasion militaire, etc. J'ai jamais eu de réponse. Par contre, j'ai eu une réponse d'autres orthodoxes qui m'ont dit « ne passe plus par Moscou quand tu voles en Asie ». Donc j'ai vu une recommandation fraternelle. J'ai écrit une deuxième fois. On était porteur d'un projet de cessez-le-feu avec le cardinal Ulrich, parce que la Pâque orthodoxe tombait une semaine après la Pâque chrétienne. Donc on est à 6 semaines du conflit. J'ai dit, écoute, Jean-Claude, on va demander publiquement un cessez-le-feu pour la période de Pâques, pour que les soldats puissent rentrer, fêter Pâques, et les orthodoxes, et les catholiques, etc., les Ukrainiens, etc. Et donc on a écrit ça à Poutine, à Zelensky, on a écrit ça à Kirill, et je demandais à Kirill de prendre publiquement position pour avoir une Pâque chrétienne. Alors je pensais que c'était habile, je voulais en fait qu'il puisse rebondir sur un argument religieux. Pas de réponse nouveau. Et j'ai tenté une troisième fois quelque chose, après je termine avec Kirill, je me suis dit, il faut retenter cette histoire de cessez-le-feu. Si on arrive à déposer les armes, j'avais pris attache déjà avec Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand, en disant, écoutez, on va essayer de porter ça au niveau des chrétiens, mais c'est plus moi et Ulrich qui signons, qui sont des illustres inconnus. On va demander au pape, à l'archevêque de Canterbury, enfin, on va prendre les grandes autorités, au patriarche Bartholomée de Constantinople, etc. Donc j'ai essayé de monter cette opération entre Noël et le Noël orthodoxe du 6 janvier, donc à la fin de l'année 2022. On essaye. Le pape m'avait tout de suite donné un accord. L'archevêque était hésitant, il rentrait d'Ukraine lui aussi à la fin de l'année, il était un peu hésitant, mais on arrivait à le convaincre, etc. Et à un moment donné, au Vatican, on me dit que le pape ne signait plus. Il y avait un moment où les forces ukrainiennes étaient en train de reconquérir du terrain, et grosso modo, il n'avait pas envoyé d'envoyer un message qui ne serait pas compris en Ukraine, c'est comme ça que j'ai compris, hein. Et il n'avait pas envie d'envoyer, qui ne serait pas compris. Bon, donc du coup, peut-être sous la pression de son entourage, parce qu'il était, il est quand même très sensible à cette question ukrainienne. Hein, je peux vous le dire, hein, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais une fois dans une audience privée sur cette question ukrainienne. C'est quelqu'un qui est pris aux tripes sur les situations humaines. Quand on échange avec lui, sur la question migratoire, il verse une larme en disant mais il y a trop de morts dans la Méditerranée. Enfin, c'est quelqu'un, ça le saisit, hein, c'est pas juste un sujet politique. Donc, il a une empathie incroyable, incroyable. Et donc, il a toujours eu cette attention pour l'Ukraine, mais là, à 3 jours ou à 4 jours de Noël, je reçois un message, le pape ne peut plus signer, etc. Et c'est l'année où finalement Poutine a demandé à Kirill une trêve et Kirill l'a fait. Non, c'est l'inverse. Kirill a demandé à Poutine une trêve. Vous avez vu ça à un moment donné, qui était unilatéral et juste en Russie. Et en fait, ils ont juste récupéré l'idée et ils ont fait la pirouette, la danseuse devant tous les Russes, devant tous les orthodoxes. Ils ont dit voilà ce qu'on fait, nous, pour nos troupes, etc. Moi, j'étais furieux. On a raté l'admission. J'étais sûr qu'ils ne donneraient pas suite, ni Zelensky, ni Poutine. Mais on était dans notre rôle. Voilà, donc on s'est fait même voler notre idée par Kirill. Voilà, qui ont fait une mascarade pour Kirill. Donc c'est compliqué, et puis en même temps, j'ai encore eu une autre affaire à Kirill, mais là j'ai tenu tête. Hein. Kirill devait être placé sur les gens qui ont des avoirs sur l'espace européen, afin de les bloquer. Notamment, je crois, plus d'un milliard d'euros ou de francs suisses dans une banque suisse.
À Kirill,
oui. Ah oui, non, c'est voilà. C'est, voilà. Et à un moment donné, donc l'Union européenne l'a mis sur la liste des gens dont on allait saisir les biens, etc., et qui ne voyagent plus en Europe, etc. Et j'ai eu des gens qui sont approchés de moi, notamment l'archevêque de Canterbury, en disant « il faudrait que la CEC défende Kirill, c'est un homme d'église, on ne peut pas ». Je dis « écoutez, non, s'il a des milliards, des centaines de millions dans des banques européennes, et s'il cautionne une guerre en tant que responsable religieux, il n'y a aucune raison qu'il soit mieux traité que les armateurs russes et autres qui tirent leur intérêt du jeu. Voilà, là, je me suis fait comprendre à ce moment-là. Voilà ce à quoi les études de théologie peuvent mener.